Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour l'accueil aussi, merci pour l'organisation. Et c'est un super temps dans la présence de Dieu, dans la louange. Dieu nous appelle à être des adorateurs en esprit et en vérité. Est-ce que vous le savez, que ce n'est pas un temps où on vient simplement adorer le Seigneur, mais qu'au quotidien, on doit adorer. Et donc le Seigneur, il n'a plus voulu les sacrifices, ta plus belle bête de ton troupeau sur l'autel. Qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui sur l'autel ? Il veut qu'il y ait quelque chose qui soit déposé de ta nature humaine, il faut qu'il croisse et que je diminue, et c'est une vie d'adoration quand tu vis comme ça. Donc, je vais me présenter un petit peu, peut-être qu'il y en a qui ne me connaissent pas, mais je suis content d'être ici parce que moi je suis originaire de la Drôme, je suis né à Valence, donc c'est pas très loin. Et donc j'ai bien grandi, je connais pas mal le secteur, et moi je ne suis pas tombé dans la marmite chrétienne quand j'étais petit, comme Obélix, voilà. J'étais plutôt du côté obscur de la force, s'il y en a qui connaissent les références. Ok, merci. Et donc, voilà, moi je suis ma famille côté espagnol, catholique de tradition, et donc c'était les mariages, c'était les enterrements, mais pour moi ça amenait pas grand-chose, la chrétienté, donc je trouvais que c'était une béquille qui aidait les gens faibles pour surmonter les épreuves de cette vie, mais moi j'avais pas besoin. Et puis, je suis parti dans ma vie avec violence. Je viens de la famille du boxeur Marcel Cerdan. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler. Donc, c'est Cerdan en espagnol. Ils ont perdu l'accent sur le A à la naturalisation. Mais voilà, donc famille de violence, famille de boxe. Et donc, j'ai été éduqué par mon père aussi avec cette violence. En plus, ils ont été en Algérie, ils ont vu la guerre, tout un tas de choses. Et donc, pour moi, l'amour de mon père était à ce que j'étais capable d'accomplir. Et si j'accomplissais pas des bonnes choses, eh ben, je dérouillais un petit peu, quoi. Et j'ai été bâti comme ça. Donc, tout ce que je faisais, même quand je suis venu à Dieu, je voyais le Père comme devant performer pour pouvoir lui être agréable, vous comprenez ? Alors qu'on confesse, c'est par grâce que je suis sauvé au moyen de la foi. Et finalement, tout ce qu'on fait, quand on analyse le fondement, on voit qu'on est en train de louer plus pour pouvoir être dans ses petits papiers, dans sa faveur. On est en train de jeûner plus pour essayer de faire plier le bras de Dieu à notre volonté comme une grève de la faim. Mais c'est par grâce que je suis sauvé. Et donc, je me rends compte qu'on peut parler de la grâce, on peut être dans les mots de la grâce et finalement, sans incarner la grâce. Et je connaissais tout bien sur le papier, je pouvais vous citer toutes les références comme une jolie poésie. Hein. Mais le but, c'est que ça devienne vivant en nous, c'est que le voile se déchire, vous êtes d'accord avec moi ? Et donc aujourd'hui, même dans le milieu chrétien, ce que je constate, c'est qu'on peut même prêcher l'évangile à des chrétiens. Vous savez ça ? Donc je vais parler un peu de la grâce, c'est le thème que Dieu m'a donné aujourd'hui, du fonctionnement dans la grâce et des bénéfices et de tout ce qui découle du fait d'être assis dans les lieux célestes avec Christ. Et donc Dieu m'a tiré de la drogue, des addictions, cocaïne, héroïne, bagarre, violence, et puis comme si ça ne suffisait pas, l'ennemi m'a lié, je suis parti aussi dans la sorcellerie, donc je faisais les tarots de Marseille, je faisais le pendule, je faisais de la méditation transcendantale, la cabale et toutes ces choses-là avec des sorties hors de mon corps où je pouvais voyager en esprit et voir les gens chez eux et faire des actions spirituelles. Donc je connais un petit peu qu'il y a une réalité spirituelle. Et quand Dieu est venu me chercher, j'ai fait une attaque cardiaque, je suis sorti de mon corps, mais pas comme avec la sorcellerie, là j'étais en train de mourir, je ne savais pas où j'allais. Et quand en moi, alors que je ne pouvais rien verbaliser, il y a quelque chose qui a parlé dans ma conscience, et si un Dieu qui existe, aide-moi, et je changerai de vie. Et puis je suis retourné dans mon corps, et ma vie a été transformée, j'ai fait un chemin, et j'ai rencontré Jésus. J'étais libéré d'addiction, j'ai été transformé dans ma vie, de handicap, de choses voilà, qui m'avaient impacté. Donc, je n'ai pas fait une rencontre religieuse. J'ai fait une rencontre avec un Dieu vivant. Et même la Bible, alors que j'avais lu des fois des passages des Écritures, je n'ai pas fait une rencontre. Au commencement, la parole de Dieu était là. Ce n'est pas une Bible qui flottait dans les airs qui est venue m'impacter. C'est une rencontre avec la personne de Christ, vous comprenez ? Et la Bible, elle nous dit, la vie, c'est pas qu'ils connaissent des choses à propos de toi, c'est qu'ils te connaissent et qu'ils te rencontrent intimement. Et le mot te connaître, en grec, c'est le même mot que quand Adam connut Ève, c'est un rapport comme intime, une fusion, une unité entre l'époux et son épouse. Donc tu peux avoir entendu parler des choses à propos de Dieu, mais là où ça devient vivant en toi, c'est quand il te connaît intimement. Donc j'ai été libéré d'addiction, j'ai été touché par le Saint-Esprit, et puis tout de suite, je commençais à avoir une intimité avec lui parce que je ne savais rien du milieu chrétien, moi. Il y a 15 ans, 16 ans maintenant, quand le Seigneur m'a touché, je ne savais pas s'il fallait aller voir un prêtre, un pasteur, j'y connaissais rien au milieu religieux. Et pendant 3 ans, je priais pour les gens, ils étaient guéris, je voyais des démons sur les gens, et puis je chassais, et puis les gens étaient délivrés, je leur ai parlé de l'Évangile. J'ai coupé court avec toutes mes relations que j'ai eues avant parce qu'ils ne voulaient pas laisser la drogue ou toutes ces choses-là, donc je me retrouvais tout seul pour fuir les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. À un moment, les personnes ne voulaient pas venir où j'étais. Et j'ai demandé à Dieu, ben, c'est toi qui bâtis ton église, tu dis qu'il n'est pas bon de rester seul et mets des personnes qui comprennent ce que je vis. C'est comme ça que le Seigneur a conduit à des rencontres, que je vienne dans le milieu protestant évangélique. Et depuis ça, j'ai été formé dans le ministère par quelqu'un qui est mon père dans la foi. J'ai eu plusieurs personnes qui ont eu une paternité qui m'ont aidé à grandir, comme Don Cripe, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, qui est responsable, qui a initié les guérisons pour les nations Europe, France, Pierre-Daniel Martin aussi, et puis un apôtre d'Espagne, Epi Liminiana, qui vit beaucoup de résurrections de morts aussi, et qui a été clé dans ma vie, une douzaine de résurrections de morts. Voilà, donc j'ai été formé par des personnes qui vivent dans l'esprit et j'ai été reconnu dans le ministère par notre église mère aux États-Unis, à Kansas, qui est une des 7 églises qui s'occupe aussi de la maison de prière 24 heures sur 24. Peut-être vous connaissez IHOP, voilà. Et donc je connais le mouvement prophétique aussi, j'ai bien grandi là-dedans. Mais tout ça pour vous dire que. On est en dévoilement, on est en cheminement de rentrer de plus en plus dans la révélation de la grâce de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais un chemin de 1 000 lieues commence par le premier pas. Et je me rends compte que des fois, mais on ne fait pas vraiment ce premier pas dans la grâce. Des fois, je demande aux personnes, je leur dis, mais quand vous faites, qui c'est qui a été baptisé, immergé en Christ? Des fois, je vois la plupart de l'assemblée qui lève la main. Je dis, ah, c'est super, merci Seigneur. Et je dis, qui c'est qui, quand il fait une erreur, se voit pécheur? La plupart de l'assemblée lève la main. Je dis, ah bon? Et puis, des fois, je vois des personnes et je leur dis, vous savez, vous avez déjà vécu un miracle de résurrection. Je dis, ah bon, mais quand c'est qu'on a fait ça? Quand c'est qu'on a vécu ça? Je lui dis, ben oui, tu as ressuscité le mort qui aurait dû rester sous les eaux du baptême. Parce que tu es rentré pécheur sec et tu es ressorti pécheur mouillé. Alors que le but, c'est une ferme assurance. Vous êtes d'accord avec moi? Que tu épouses quelque chose. Est-ce que tu peux être juste et pécheur à la fois? Pécher, ça veut dire louper le but, manquer la cible. Mais les questions d'une nouvelle création, il ne veut pas améliorer l'ancien et rafistoler le vêtement ancien, c'est quelque chose de nouveau, vous comprenez? Et donc c'est pour ça que dans Jean 3, quand Jésus parle à Nicodème et lui dit, mais comment un homme peut-il naître de nouveau alors qu'il est déjà vieux? Il va rentrer dans le sein de sa mère et renaître. Et le mot en grec, c'est anoten, qui veut dire naître depuis le haut, naître d'en haut. Dans les versions araméennes, ça veut même dire naître depuis l'origine, depuis le plan originel de Dieu. Où tu comprends que tu as un mandat aussi sur la création. Donc le Seigneur, s'il te fait naître de nouveau, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui passe et quelque chose qui est maintenant nouveau, vous comprenez? Mais aujourd'hui, est-ce que si tu es... Qui c'est qui est né de nouveau ici, qui a reçu le Saint-Esprit? Donc quand tu nais de nouveau, tu nais d'en haut, la Bible, elle dit que tu es assis sur les lieux dans les lieux célestes en Christ, vous êtes d'accord? Mais ici, physiquement, je vous vois là, vous êtes assis aussi sur une chaise. Donc on comprend bien qu'il y a la nature adamique et on comprend bien qu'il y a l'homme nouveau qui est assis dans les lieux célestes en Christ. Vous comprenez, c'est spirituellement. La Bible dit que celui qui est né de l'esprit, il est esprit. Donc mon identité aujourd'hui, alors que vous voyez Cyril, c'est plus ce Cyril dans la chair. C'est le Cyril en esprit. Et c'est une ferme assurance, la foi. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis fermement assuré que je suis toujours là-haut et plus en bas. Et que même si ma chair, elle va faire des erreurs, parce qu'elle en fait des erreurs, Paul, il dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et quand je veux faire le bien, je ne fais pas le bien que je veux faire, et le mal que je ne fais pas, je le fais. Mais si je le fais, C'est plus Paul qui le fait, c'est plus la nature adamique qui détermine mon identité, qui je suis et où je vais. C'est le péché qui habite dans la chair, mais moi je suis le nouveau Paul qui est en haut. Toujours juste, toujours parfait, toujours saint, toujours agréable, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Est-ce que vous comprenez ? Péché, ça veut dire louper le but, manquer la cible. Aujourd'hui, je ne sais pas, moi j'ai envie de boire cette bouteille d'eau, et puis d'un coup je fais tomber la bouteille d'eau. J'ai loupé le but, j'ai manqué la cible pour vous donner une image. Mais est-ce que je suis obligé de me dire que je suis un gros nul, un âge, j'aurais dû me faire greffer des pattes de poulet à la place des mains ? Non, je ne suis pas obligé de me maudire et de prendre une identité de malédiction, je peux juste me dire « Ah ben j'ai fait tomber la bouteille d'eau, je la ramasse et puis je me corrige. » Vous comprenez la différence ? Le père du péché, c'est qui ? Donc c'est qui le père du pécheur si tu épouses encore à nouveau cette identité alors que tu aurais dû la laisser sous l'eau ? Un petit peu de levain. Tout. Tu es 99% du temps juste et tu fais une erreur qui te fait te voir pécheur, tu n'avais pas une ferme assurance de 100% de cette justice qui ne bouge jamais. Vous comprenez ? Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui se déracinent de cette identité nouvelle, qui se déracinent de la Jérusalem céleste pour se replanter dans l'ancienne réalité. Et physiquement, puisque la Bible a dit que les choses qui ont été créées, elles tirent leur essence des choses invisibles. Et c'est pour ça qu'il nous dit, quand on regarde à travers la nature, à travers la création, on voit les merveilles de Dieu, nous enseigne-t-elle pas ? Eh bien, essaye de déraciner un arbre à chaque fois qu'il doit porter du fruit, qu'est-ce qui va se passer ? Les racines ne prennent pas. Le tronc, la tige ne se solidifie pas, vit pas les intempéries, les tempêtes qu'il doit vivre pour pouvoir solidifier les choses. Et au temps où il doit commencer à grandir et porter du fruit, là, il doit en porter. Mais si tu le déracines à chaque fois, tu le stresses, les racines ne poussent pas, la tige ne pousse pas, et même l'arbre tombe malade et ne grandit pas. Et ben c'est ce qu'on fait des fois. On a commencé à être enraciné dans la nouvelle réalité, et puis on se déracine pour se planter dans l'ancienne. Donc du coup, est-ce que tu y as été un jour pleinement dans cette nouvelle réalité ? Puisque la foi est une ferme assurance. Aujourd'hui, si tu as un accident de voiture, est-ce que tu vas remettre en cause le fait que ton assurance allait payer ? Eh bien, c'est ce qu'on fait quand on se comporte comme ça. Vous comprenez ? Donc, quand tu rencontres la personne de Christ, il vient t'attester que tu es enfant de Dieu. Il y a quelque chose qui est scellé en lui, vous comprenez ? Mais il faut avoir la compréhension de l'œuvre de la croix. Où c'est qu'elle s'est plantée, la croix du calvaire ? À Golgotha, le lieu du crâne. Donc premièrement, le casque du salut, il y a quelque chose qui doit venir sur tes pensées, dans ta compréhension. Et quand tu n'es pas bien fermement assuré, ben, tu ne bénéficies pas des promesses puisque tu te déracines à chaque fois. Et tu ne grandis pas dans la grâce où normalement ça doit aller de gloire en gloire, de révélation en révélation, parce que tu es assis et positionné à la bonne place. C'est quoi le miracle que Jésus a fait où sa maman elle l'a un peu pris de court, elle lui a dit « Oh, ils n'ont plus de vin ». Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a changé l'eau en vin. Et Jésus, il était l'esprit de la prophétie, vous êtes d'accord avec moi ? Donc ce qu'il faisait était annonciateur de quelque chose. Si vous allez en Israël, vous allez voir qu'à côté des maisons, ils ont des baptistères et puis chaque semaine, ils essayent d'aller se laver pour essayer de se purifier des péchés de la semaine. Et ça ne les amène jamais à la purification totale. Et donc, il est venu changer cet ancien lavement en un baptême d'immersion à travers le meilleur des produits détachants, le sang de Jésus. Vous connaissez la pub Javel, là, la croix plus blanc que blanc, la croix Javel, ben voilà, moi je pense que c'est inspiré de Dieu. Donc tout ça pour vous dire, si vous êtes lavé à travers le meilleur des produits détachants, le sang de Jésus, et que quand vous sortez de cette alliance de baptême où vous avez décidé d'épouser ce lavement parfait et que vous voyez sale, est-ce que vous avez réellement scellé quelque chose ? La foi est une ferme assurance. Celui qui craint n'est pas parfait dans cette alliance, dans l'amour. Je ne vous parle pas du péché volontaire. Paul, il ne voulait pas faire le mal qu'il était en train de faire. Je ne vous parle pas d'aller vous vautrer consciemment dans quelque chose de mauvais. Mais tu vas faire des choses qui vont louper le but à des moments, parce que ta chair, elle subit encore l'attraction, la loi du péché. Tu vas peut-être te mettre en colère, peut-être le gars va te faire une queue de poisson devant, et puis d'un coup, pour qui se prend lui ? Et après, tu vas te rendre compte que tu n'as pas le caractère de Christ. Et tu vas dire, oh là là, j'en suis encore là après 12 ans de marche. Mais oui, tu as besoin de ma grâce. Et l'œuvre de la croix, la grâce de Dieu, c'est une œuvre qui dépasse le temps, c'est l'éternité qui envahit le temps, vous comprenez ? Il t'a guéri, délivré, pardonné de tes péchés. Passé, présent et futur. Sinon, tu aurais toujours besoin d'aller te laver. Est-ce que vous comprenez la grâce de Dieu, le cœur du Père ? Et quand tu fais une erreur, si toi, dans ton positionnement, tu ne te vois plus comme un fils, parce que quand tu te vois pécheur, tu ne te vois plus comme un juste, comme le fils de Dieu. C'est ça que ça produit, vous comprenez ? Il y a une image dans la Bible, il y a une histoire dans la Bible où on voit le fils prodigue. Il sort de la maison de son père, il va faire sa vie, il fait des bêtises, et il revient, et lui ne se voit plus comme un fils. Lui, pour le père, il le voit toujours comme son fils. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le seul qui peut se séparer, c'est toi, parce qu'il a mis devant toi la vie, la mort, le bien, le mal, et il te dit, je te conseille de choisir la vie. Et lui, il revient, et on peut même faire des fausses repentances dans le milieu chrétien. Est-ce que vous savez ça ? Et tu reviens vers Dieu, tu dis, allez, je travaillerai un petit peu, et puis j'aurai au moins un salaire, j'aurai des bénéfices de la grâce. Et moi, c'est ce que je faisais avant, quand je faisais une bêtise. Je dis, allez, je vais prendre ma guitare, et puis certainement, je vais faire 3 heures de louange, et je vais revenir dans ces petits papiers, quoi. Je vais jeûner. Oh Seigneur, tu vois, j'ai fait des bêtises. Allez, Seigneur, je vais lire un peu plus ma Bible, ça va être agréable. Et je suis encore complètement dans les mérites. Alors qu'aujourd'hui, quand je loupe le but et que je sais que je suis déjà pardonné, déjà justifié, assis dans les lieux célestes, je ne me déracine plus de ce positionnement. Et l'onction et la grâce ne me quittent pas. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour être dans le positionnement dans lequel je suis déjà toujours. Mais plus je m'améliore dans ce chemin, comme ton enfant qui est en train d'apprendre à marcher, des fois il se casse la figure et puis petit à petit il va arriver à se tenir debout, puis après à courir, vous êtes d'accord avec moi ? Eh bien je ne me disqualifie jamais de cet héritage-là. Et donc les fleuves d'eau vive sont toujours en train de couler, et quand je corrige ce que je viens de faire qui n'était pas aligné, je m'aligne, c'est ça la repentance. La grâce coule encore et de gloire en gloire, et ça va toujours devant et jamais en arrière, et il n'y a pas de stagnation parce que je ne sors pas de mon héritage. Mais on peut sortir de la grâce de Dieu. Parce qu'on a mis foi à des mauvaises promesses. Et la Bible, elle dit que on hérite de la promesse par la foi. Je peux hériter de la promesse de l'ennemi. Donc il dit qu'il est venu pour nous baptiser d'esprit et de feu. Et donc, il est important dans Matthieu 3, 11, le Saint-Esprit, c'est un feu dévorant. Oui ou non ? Mais qu'est-ce qu'il veut dévorer ? Je l'ai dit tout à l'heure. Il ne veut plus les sacrifices extérieurs. Il veut que ta nature charnelle, que tu portes ta croix et que quelque chose qui soit déposé de plus en plus sur l'autel. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et plus tu vas diminuer, plus la gloire de Dieu, plus la grâce de Dieu va pouvoir commencer à passer à travers toi. La sanctification n'est pas pour l'homme nouveau. La sanctification est pour la nature adamique, pour revêtir les choses sur la terre, dans la matière, comme c'est au ciel. Ça va ? Donc quand on nous sort des fois certains versets du chapeau, un petit peu rapidement, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, en grec, c'est pas exactement ça. En grec, la notion, c'est que c'est un processus, c'est une action qui continue dans le temps. Donc, les choses anciennes sont déjà passées, puisque tu es déjà assis dans les lieux célestes en Christ, mais c'est en train de venir sur la terre comme au ciel. C'est en train de se diffuser, tu es en train de vivre le salut pas à pas que tu fais dans le dévoilement de la grâce pour ta vie. Le salut qui est guérison, le salut qui est délivrance, le salut qui est aussi prospérité. Il veut que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Oui ou non ? Est-ce qu'il ne veut pas que tu sois la tête et non pas la queue ? Est-ce qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil ? Est-ce qu'il dit que tu moissonneras là où tu n'as même pas semé? Est-ce qu'il dit qu'il ramènera les richesses iniques du monde pour sa gloire? Est-ce qu'il ne te dit pas que tu donneras mais tu n'emprunteras pas? Comprenez la grâce et la faveur de Dieu. Mais tout ça, tu peux en bénéficier, tout ça peut commencer à croître, tout ça comme on peut commencer à grandir dans tous les domaines de ta vie. Dans Thessaloniciens, il nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Il y a une prospérité pour tous les domaines de ta vie. Esprit, âme et corps, il veut que tu grandisses. Je le dis souvent, mais le psaume 23, vous savez, on le dit des fois, le bonheur et la grâce m'accompagneront. En hébreu, ce n'est pas ça. Le mot, il est beaucoup plus fort, il veut dire me poursuivront jusqu'à me toucher, me persécuteront. T'imagines quand tu es assis à la bonne place dans ton héritage, toi tu as des ennemis, tu voudrais combattre, mettre ta patte, faire quelque chose, il te dit assieds-toi, mange et bois. Je dresse une table en face de tes ennemis. Waouh. Grâce sur grâce, j'ai rien fait pour avoir ce cadeau-là. Persécuté par la grâce de Dieu. Mais quand j'ai commencé à comprendre ça, je vais vous passer un petit diapositive pour vous montrer ce qu'on peut vivre dans la dimension de la gloire. Mais on a commencé à voir dans des pays pauvres où des fois on doit dire « Ah non, il ne faut pas prêcher un tel évangile, quand même ils sont miséreux, là, ici, c'est galère, c'est le pays le plus pauvre du monde, tu ne peux pas dire qu'on est des rois et des reines. » Mais si, la Bible, elle le dit. Il en donne autant à ses bien-aimés. Quand ils ont commencé, certains, à comprendre leur héritage en Christ, est-ce qu'il n'est pas le même Dieu qui nourrit son peuple au désert? Est-ce qu'il n'est pas le même Dieu où les vêtements ne s'usent pas? Vous voulez de la caille? Oh, vous en avez marre de la manne, allez, un peu de caille si vous voulez. Eh bien, ils ont commencé à avoir des finances qui apparaissaient sur leur compte surnaturellement. Ils ont commencé à avoir de la nourriture se multiplier pendant un mois. On a commencé à voir des membres repoussés. Là, aujourd'hui, j'ai vu la deuxième résurrection de mort il n'y a pas longtemps en priant pour des personnes. Et les choses commencent à couler parce que tu es assis dans la résurrection et la vie et la gloire de Dieu est en train de s'intensifier, vous comprenez? Le ciel est en train d'envahir la terre. Mais c'est depuis cet héritage-là. On a vu des choses folles. Une femme vient me voir, elle me dit « Regardez, j'avais prié, puis il y a un mouvement du Saint-Esprit, l'assemblée était tombée par terre, visitée. » La femme vient me voir, elle me dit « Regardez ma main. » Je dis « Ben, ouais, ben, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 5 doigts dans votre main. » Elle me dit « Oui, c'est bien ça. Tout à l'heure, j'en avais que 4. » Là, qu'est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois à ce Dieu-là? Mais pour pouvoir bénéficier de ses promesses, il faut être enraciné à la bonne place. Et aujourd'hui, on peut tout faire bien dans le milieu chrétien, on peut avoir l'apparence de la piété et même vivre 20 ans en ayant l'apparence de comprendre le cœur du Père et on ne comprend pas le cœur du Père. Le fils prodigue qui revient, vous avez vu son frère, il était pourtant dans la maison, il n'avait rien compris de son héritage. Mais tout est à toi, tu m'aurais demandé. Ah bon? J'ai rien compris. Et on peut passer 20 ans 30 ans, 40 ans, et on est toujours captif de la maison de servitude de l'Égypte, qui doit sortir aussi de notre être intérieur. On peut même faire des conversions intellectuelles. On peut le voir dans Acte 19 à partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Comment tu peux te convertir si tu n'as pas fait la rencontre du Saint-Esprit, puisque la Bible elle te dit que c'est le seul qui peut t'amener de l'autre bord, c'est lui qui te convainc de péché, de justice et de jugement. On peut faire des adhésions intellectuelles. Il y a des gens qui aiment Jésus parce que c'est un beau programme philosophique et ça paraît être un bon chemin de vie. Comme tu peux adhérer dans n'importe quel système religieux parce qu'on t'a sorti ou des sourates, ou on t'a sorti ça, une belle philosophie, tu te dis « ouais, c'est bien, c'est un beau programme ». Mais il n'est pas question d'une adhésion mentale, il est question d'une pleine conviction. Et il est question de sceller cette alliance dans ton cœur par la foi parce que tu as une pleine compréhension des réalités célestes. Amen. Donc, Moi, je vais vous montrer une vidéo. Je suis un super zéro. Vous comprenez? Moi, j'étais une quiche à l'école. Parce que j'ai aussi des problèmes un peu dyslexiques, dysorthographiques, tout ça. Donc, tous les 3-4 mots, j'arrive à oublier un mot, même faire des fautes, même en apprenant toutes les règles, en lisant tous les livres que je veux. Et je me suis dit, quand Dieu, tu m'appelles, Seigneur, comment tu vas faire pour te servir de moi? J'arrivais même pas à parler devant 2 ou 3 personnes. Maintenant, je peux parler devant des milliers de personnes. Mais c'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Et quand toi, tu passes derrière et que tu le laisses aller devant et que tu lui dis, écoute, je te suis, je te fais confiance, je ne sais pas comment tu vas faire, il goupille, il amène les traducteurs, il amène les personnes pour la traduction, même s'il t'amène à écrire un livre, il amène ci, il fait ça. Et tu vois que ça ne dépend plus de toi, toi, tu lui as juste dit oui. Donc ne dites pas, waouh, qu'est-ce qui vit ce gars? Moi, j'ai compris que j'étais un zéro pointé. Et plus tu es faible, et plus tu te confies plus du tout en toi, plus lui, il est fort à travers toi. Et donc, je l'ai compris des fois dans la douleur. J'ai eu des marches aussi à porter ma croix. J'ai compris ces choses-là. Mais j'ai compris que des fois, tu ne peux pas te défendre. Il faut laisser la justice de Dieu. Des fois, tu ne peux pas te lever contre une situation que tu vis, même pour tes proches. Il faut laisser ça à Dieu qui connaît toutes choses. Et puis, la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si tu passes l'épreuve de la foi dans la stature de Christ, eh ben, Dieu il va augmenter les choses sur ta vie, il va dévoiler de nouvelles grâces. Vous comprenez? Je ne vous dis pas que c'est un chemin où tout est beau, tout est rose. Comprenez bien. L'ennemi, il a demandé pour nous passer au crible comme le froment. Donc les domaines de ta vie qui vivent encore, il va vouloir les piquer, vous savez, il va porter l'estocade au taureau intérieur. Mais une fois que tu meurs à toi, on ne peut plus tuer un mort. Vous comprenez? Donc il a moins de portes d'entrée, et plus c'est lui qui vit, et plus tu te confies en lui, moins l'ennemi il a de prise. Ça va? Je sais pas si on peut passer la vidéo. Je vais la commenter, on n'est pas, on peut pas obligé de mettre le son. Donc là, ah ouais, la qualité YouTube est pas terrible. Si, ça va. Donc là, on est au Togo et on fait des évangélisations et des milliers de personnes sont venues à l'appel à la prière sous la puissance de Dieu. Des sorciers roulés sur plusieurs dizaines de mètres par terre étaient attirés devant la scène à donner leur vie au Seigneur. On a commencé à avoir un tel impact avec des milliers de conversions qu'on a pu prier pour le procureur, ministre et tout ça, le roi des Ewé. On a vécu des choses hallucinantes. Cette petite fille avait les yeux tout blancs et après le temps de prière, des pupilles se sont recréées. Et du coup, bah, tout un village de 500 personnes a donné sa vie au Seigneur et on a dû démarrer une église parce qu'il n'y avait rien derrière. Au Cambodge, dans un village khmer où on ne parlait même pas khmer, on a dit « Seigneur, comment tu vas faire? » Ils ne connaissent pas l'évangile, culture que bouddhiste. Et il a dit « Imposez les mains » et la Bible, elle dit que le Saint-Esprit était communiqué par l'imposition des mains des apôtres. On a dit « On te fait confiance ». On priait pour ces enfants, ils tombaient dans le repos de l'esprit, ils se relevaient, ils avaient vu Jésus, les anges et des choses de l'évangile que personne ne leur avait dit. Les militaires en armes, alors que c'était interdit de prêcher l'évangile, on allait et puis sous la puissance de Dieu, ils tombaient à côté de Bouddha et du génie de la prospérité, alors qu'ils venaient de faire leurs sacrifices et brûler leurs encens. Et des enfants commençaient à prier pour leurs parents après avoir reçu le Saint-Esprit, et les parents étaient baptisés du Saint-Esprit ou guérissaient comme ça. Donc on a vu beaucoup de miracles, beaucoup de choses se passer et beaucoup d'enfants touchés parce que le Saint-Esprit dit de redevenir comme des petits-enfants. On a commencé à avoir des assemblées visitées par le Saint-Esprit et simplement dans la présence de Dieu, vous voyez cette petite fille, elle doit avoir quoi, 10 ans. Moi, si je m'étais pointé devant Dieu, j'avais fait presque tout ce qu'il fallait pas faire à l'époque. Et elle a rien fait. Tous ces enfants ont rien fait par rapport à moi, mais ils sont convaincus de péché, de justice et de jugement. Vous comprenez? Leur caractère change, des choses se passent. Cet enfant paralysé se lève après la prière. Sans même imposer les mains aux personnes, simplement dans le souffle et le mouvement du Saint-Esprit, des gens sont visités. Moi, je me suis dit, mais Seigneur, j'ai pas appris ça dans mon école de théologie. Et puis j'ai commencé à chercher un peu, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai, oui, quand ils s'approchaient de Jésus, ils reculèrent, ils tombèrent face contre terre. Qui pourra se tenir debout quand il paraîtra? Ce sera comme le feu du fondeur. Il y a un profond sommeil qui est tombé sur Adam. Donc oui, ok, j'ai trouvé beaucoup de passages qui parlaient de ces choses-là. Mais c'est surprenant. Et il y a des réunions, on ne peut pas imposer les mains à tout le monde, et le Saint-Esprit est en train de souffler. Et si les personnes sont ouvertes, comme il dit dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre, là, il viendra faire, il viendra souper avec toi, il viendra faire quelque chose dans ta vie. Et donc, dans ces mouvements-là, on a vu des centaines, des milliers de conversions et on n'a pas imposé les mains, on n'a rien fait, c'est simplement le Saint-Esprit qui passait comme ça. Là, on est en Colombie, dans un quartier niveau 1, où les gangs nous ont accueillis avec les armes, les machettes et tout, complètement défoncés, mais avec une pasteur qui fait un travail là-bas et qui a touché à certaines personnes des gangs et qui aide les nécessiteux. Ils nous ont laissé venir sur la place publique faire de l'évangélisation. À 50 mètres de là, un autre gang voulait nous agresser, nous kidnapper, voler le matériel. Et donc, les deux gangs se battaient pendant que nous, on prêchait l'amour de Jésus sur la place publique. La maman des chefs de gang se levait de fauteuil roulant. L'hélicoptère de l'armée survolait la zone tellement que c'était dangereux, mais c'était un film, quoi. Et la grâce de Dieu surabondait et les choses se libéraient dans la gloire de Dieu. Donc, il est important aussi de pouvoir s'ouvrir au mouvement du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi ? Dieu ne viole personne. L'amour se propose et ne s'impose pas. Et il est important que le mouvement et l'aide du Saint-Esprit puissent passer comme il le veut. Pourquoi ? Parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Là, c'est dans une école, et puis le Saint-Esprit est tombé dans une école. 3000 enfants, il y en a même dans les classes qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Ce n'était pas prévu, on faisait de la prévention de drogue. Et puis j'ai dit, bon, bah, écoutez, moi, je suis sorti des drogues parce que j'ai fait une rencontre avec Jésus. Qui veut rencontrer Jésus ? Tous les enfants ont levé la main. Et ils ont été touchés comme ça dans l'enceinte de l'école. Donc le Saint-Esprit passe quand les cœurs sont ouverts et il faut qu'on redescende des fois de notre hauteur humaine. Non, je ne pleurerai pas si le pasteur y prie pour moi. Mais si Dieu veut te décharger comme ça. Non, je ne rirai pas si le Seigneur veut rire à travers toi. La joie du Seigneur est une force. Il a besoin d'une huile de joie. Et donc, on a vu voilà, beaucoup de miracles se passer. On a vu une femme, après, là, dans les rues de Barranquilla. Elle avait des os qui sortaient du corps. Elle était venue, elle avait voulu laisser une chance à Jésus parce que l'hôpital coûte très cher et les soins coûtent très cher en pleine rue. Là, on est avec des chefs de gang qui avaient tué plusieurs personnes dans un centre de réinsertion parce que les places dans les prisons sont surchargées. Donc, c'est des chrétiens qui montent ces centres en partenariat avec l'État. Ils nous ont laissé prier pour eux et ils tombaient comme des petits-enfants en pleurs, alors qu'il y en avait qui avaient plusieurs meurtres à leur actif. Dans les rues de Medellín, avec les personnes dans les addictions, les rues du crack et tout ça, le Seigneur a fait des miracles. Et on a vu des plaies purulentes à force de se piquer, qui étaient refermées sous nos yeux, la chair se refermait. Cette dame, là en bas, les points noirs, c'est les os qui sortent du bas de sa jambe. Et après avoir prié, elle a été visitée et on lui a dit, « Mais quand tu te lèves, ne marche pas sur les choses anciennes, mais marche sur les choses nouvelles. Marche sur l'eau de sa parole et ne regarde plus à la douleur, aux choses que tu avais avant. Si Dieu a fait quelque chose, les choses sont nouvelles. » Elle s'est levée, elle n'a pas cherché à se dire « Oh, si je pose le pied, ça va peut-être être douloureux. » Non, elle a avancé comme ça et un nouvel os a pris place. Parce que ton amen, il doit sortir de la barque. Si ton amen, il reste dans la barque, tu ne marcheras pas sur l'eau, vous comprenez ? Et la Bible, elle dit que la foi, elle doit avoir les œuvres de la foi. Tu dois te mettre en mouvement derrière. Si la porte de victoire est ouverte devant toi, il te dit « lève-toi et marche ». Il te dit « change d'état, commence à rentrer, on vient de prier pour quelque chose de nouveau et tu fonctionnes encore avec des choses anciennes ». Vous comprenez ? Bon, on peut passer, mais après on voit d'autres choses, on peut arrêter la vidéo. C'est simplement pour vous montrer que le mouvement de l'esprit peut passer comme ça, comme ça. On a commencé à voir des gens qui avaient des nouvelles dents qui poussaient, des gens maigrir aussi surnaturellement, perdre des tours de taille. On a commencé à voir des bijoux en toc aussi dans des lieux très très pauvres se changer en or. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire des choses comme ça ? Lucifer, qu'est-ce qui s'est passé ? Il était le chef de la louange et la Bible elle dit qu'il y avait tout un tas de pierres précieuses autour de lui. Vous êtes d'accord avec ça ? Et aujourd'hui, la gloire de Dieu, c'est qu'il en donne autant à ses bien-aimés. On prie que le royaume vienne sur la terre comme au ciel. Est-ce que ces choses surnaturelles font partie du royaume ? On a vu plusieurs fois des diamants apparaître dans les mains, des bijoux se transformer en or, des choses les plus précieuses, Dieu les donne à son peuple pour dire « Regardez, je suis là et c'est moi qui prends soin de vous ». À Madagascar, ils ont vu un collier en toque se changer en or. Là, il y a Valérie qui peut témoigner aussi. Le collier, à la fin, alors que c'est le pays le plus pauvre du monde, le salaire moyen dans certains lieux, campagnes reculées, c'est 20 euros par mois. Le collier s'est changé en or, ça valait au moins 8 000 euros tellement que c'était lourd et épais. Vous comprenez? Est-ce que Dieu peut t'enrichir comme ça? Mon ami Épi d'Espagne est pris et puis il y a des diamants ou des pierres précieuses qui apparaissent comme ça. Il va voir, après il les vend et du coup il récolte 50 000 ou 60 000 euros. Il fait des campagnes avec 100 000 personnes. Ça va? Donc tout ça pour vous dire qu'il est important de comprendre comment le Saint-Esprit fonctionne, de lui laisser la place, puisque nous ne sommes plus appelés à fonctionner depuis notre nature ancienne, mais depuis la nature nouvelle en Christ, oui ou non? Et dans le mouvement du Saint-Esprit, il n'est pas soumis à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui ou non? Il est au-dessus de ça. Vous savez, quand Jésus il dit le Fils de l'homme est maître du Shabbat, il est en train de dire une énormité là pour les Juifs. Parce que la loi et tout le cadre de la loi est censé t'amener dans le Shabbat. Et lui, il dit, c'est moi le repos. Vous comprenez? Le Fils de l'homme est maître, c'est-à-dire quelqu'un qui est maître, il n'est pas soumis. Il est au-dessus de ces choses-là. Vous comprenez? Le cadre de la loi est bon tant que tu en fais un usage légitime. Mais si à un moment ce cadre de loi ne porte pas la vie, c'est ce que Jésus est venu dire. Mais pourquoi il mange sans s'être lavé les mains? Pourquoi si? N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David quand il eut faim? Il a mangé des pains de proposition qu'il était interdit? Parce qu'il est le Dieu de la vie et que le mouvement et l'être de Dieu peut dépasser le cadre de loi, vous comprenez? C'est lui qui l'a créé, est-ce qu'il n'est pas en autorité au-dessus? Ça va? Il est juste qu'il y a un cadre de loi en général, même le code de la route. Vous roulez à 30 km/h, moi des fois j'ai dit Seigneur, franchement tu me réformes, il faut que je roule à 30 km/h, mais avant ça me gonflait, j'aimais bien la vitesse. Mais j'ai compris qu'il fallait respecter les principes d'autorité, parce que sinon l'autre il va rouler à 80, l'autre à 60, donc il est juste qu'il y a un cadre commun pour tout le monde. Mais ce cadre commun qui est bon 90% du temps, peut-être 10% du temps, ne te porte pas la vie, vous comprenez? Et donc, imagine, tu vois quelqu'un en sang, blessé sur le bord de la route, et les pompiers sont bloqués à tel endroit, il y a un accident, ils ne peuvent pas venir, et le gars, il est en train de se vider. Est-ce que ça va te poser un cas de conscience de rouler à 160 pour l'amener aux urgences? Et même au niveau juridique, ils sont arrivés à tomber sur le fait que si tu fonctionnes d'une manière binaire entre c'est bien, c'est mal, des fois, toutes les situations ne sont pas à mettre dans ce cadre, et donc même les juristes, même les avocats, ils te disent qu'il y a la loi et l'esprit de la loi. Comprenez? Et donc, pour vous illustrer ça, Galates 4 à partir du verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances. Donc vous comprenez, aujourd'hui, toutes les personnes du monde s'accordent à dire qu'on a le même Dieu. Les musulmans te disent, mais de toute façon, on a le même Dieu à l'origine. Et si tu regardes, effectivement, on a le même créateur, tous les hommes. Mais moi, je ne m'intéresse pas à leur dire plutôt qui est ton père. Tu vois, un peu, vous connaissez Star Wars, je suis ton père. Donc, ce n'est pas la question de qui est ton père. Moi, je m'intéresse plutôt à leur dire, mais du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt qui est ta mère. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, en Arabie, elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Car Agar, c'est le mont Sinaï. Mais la Jérusalem d'en haut et libre, c'est notre mère. Donc, il y a deux alliances qui t'engendrent, il y a deux femmes qui t'engendrent. Et de quelle alliance, de quelle femme, de quelle épouse tu vas être l'enfant? Celle qui vient sous des cadres de loi, des diktats et qui est coupée de la relation intime ou celle qui est passée à travers le voile déchiré? Vous comprenez? Et le fonctionnement dans l'esprit, celui qui est né de l'esprit, est esprit. Est-ce que tu peux mettre le vent en cage? Et ce qui est bon un moment, si tu manges de la manne d'hier dans le désert, tu peux mourir demain, vous comprenez? C'est pour ça que tu dois fonctionner dans le flot et dans le mouvement du Saint-Esprit et que tu ne peux pas faire une tradition de Dieu. Et même ce qui est bon à un moment, vous savez, ce bois avec le serpent au désert qui a été cloué, c'était une préfiguration de la croix. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait plus tard? On peut trouver qu'ils en ont fait une idole. Donc c'est pour ça que Dieu se renouvelle et qu'il veut des choses nouvelles, des chants nouveaux, des cantiques nouveaux. C'est pour ça qu'il y a un mouvement nouveau de Dieu, vous comprenez? L'arbre de la connaissance du bien et du mal te fait dire ça c'est bien ou ça c'est mal. Tu dois faire des normes de tout. Mais nous ne fonctionnons plus sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous comprenez? Je vous donne une question, je prends un exemple assez fort. Est-ce que mentir c'est bien ou c'est mal? Beaucoup de personnes disent non c'est mal, il ne faut pas mentir, le père du mensonge, il est écrit, c'est Satan. Allez, je vous donne un autre exemple. Et n'allez pas dire, Cyril, le prédicateur qui est venu, il a dit qu'il faut mentir. Hein. Exode 1, à partir du verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes, les Hébreux nommés l'une Chifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si un est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte, et elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses, elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Elles ont menti? Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu les fit prospérer dans leur maison. Ça va? Vous comprenez où je veux en venir? Imagine, tu es en temps de guerre et puis d'un coup, l'armée allemande débarque dans ta maison et te dit, est-ce qu'il y a des juifs chez toi? Est-ce qu'on le sait, on a eu dénonciation, tout ça? Et toi, tu te dis, oh, je n'ai pas le droit de mentir. Et peut-être qu'ils avaient trouvé une personne qui était planquée dans le placard et toi, tu te dis, bon, ils emmènent cette personne pour l'exécuter. Et comme tu n'as pas le droit de mentir, s'il vous plaît, venez, vous avez oublié celui qui est sous le tapis là. Il y en a un qui est là-haut, il y en a un qui est là. Est-ce que vous comprenez? Il est la vie, il est le Dieu de la vie, il n'est pas le Dieu de la connaissance du bien et du mal. Et ce qui peut amener un cadre qui t'amène du bien en général peut ne pas porter la vie 5%, 10% du temps. C'est pour ça que celui qui est né de l'Esprit doit aussi se soumettre au Saint-Esprit. Oui ou non? Un autre exemple. Donc dans les Actes, acte 10, à partir du verset 10, donc c'est Pierre qui eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre, les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Effectivement, les reptiles et toutes ces choses, c'est des choses qui sont jugées impures selon cette loi qui filtre à partir de ce qui est bien ou de ce qui est mal, vous comprenez? Et qu'est-ce qui va se passer? La parole qu'il reçoit, c'est « ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur ». Ça va? Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, le Seigneur peut passer et te dire à toi, « Toi, pour toi, ta vie, ça va être comme ça. Pour toi, ta vie, à un moment, ça va être comme ça. » Et si toi tu te dis, non, moi je vais juger lui parce que non, ça doit être comme ça avec le bien ou le mal plutôt qu'à sonder ce qui est bien ou ce qui est juste pour sa vie, et tu peux commencer à faire une loi et devenir persécuteur de la grâce de l'autre. Imaginez aujourd'hui, on le sait, que fumer c'est bien ou c'est mal? C'est pas un bien. N'allez pas dire encore, le prédicateur, il a dit c'est bon, vous pouvez y aller, fumer. Je suis en train de vous dire aujourd'hui qu'il y a des communautés, je ne sais pas, tu vas te retrouver dans la forêt amazonienne ou je ne sais pas quoi, et puis le chef du village, comme ça m'est arrivé en Afrique, à des endroits, ils te font manger des choses, voilà. Mais si tu ne communies pas ou que tu ne fais pas la chose avec eux, où Dieu peut t'envoyer, et c'est Dieu qui sanctifie toute chose. S'il t'envoie, sa parole sanctifie, rend pure les choses dans lesquelles il t'envoie. Joseph en Égypte n'est pas souillé par l'idolâtrie ou tout ça, vous comprenez, pourtant il vivait là-dedans. Et donc, si Dieu t'envoie dans ce mandat-là, eh ben, est-ce que ça va me poser un cas de conscience de fumer le calumet de la paix avec le chef du village si après je peux évangéliser toute la contrée et porter la vie aux personnes? Il est le Dieu de la vie, vous comprenez? Mais je vous le dis en général, pour des situations, c'est important de sonder Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire, parce que des fois, on va dire non, c'est pas comme ça, non, il ne faut pas passer comme ça. Je connais une chrétienne qui devait approcher quelqu'un de très, 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 très important, qui faisait partie de nos assemblées. Elle a commencé à témoigner au chirurgien de cette personnalité importante qui est l'autorité de son territoire. Et le chirurgien était touché et il devait me le présenter et pour que je puisse après parler à la plus haute autorité et pouvoir prier aussi, ça aurait pu changer tout un territoire, vous comprenez? Et puis un jour, elle vient me voir, elle me dit, oh, ils ont voulu que je me fasse vacciner et que je sois obligé de me faire vacciner, mais moi, j'ai vu des choses comme quoi c'était mauvais, donc j'ai refusé ça. Est-ce que tu es fier de moi? Je lui dis, mais est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? Elle me dit, non, non, mais j'ai décidé que c'était mal. Et moi, je lui dis, mais écoute, est-ce que même si ce serait un breuvage mortel, est-ce que Dieu, il ne peut pas t'envoyer là? Et est-ce qu'il ne peut pas faire que le breuvage mortel ne te fasse rien si Dieu, il a déclaré que c'était ta place et que tu devais pouvoir porter la vie? Eh bien, en fonctionnant sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, toutes les portes se sont fermées et on n'a pas pu parler à cette plus haute autorité. Vous comprenez? Donc, ce qui est mal, peut-être 90% du temps, peut-être qu'à une personne, ça va être son mandat et de passer par là, vous comprenez? Donc nous ne sommes pas d'une manière à dire ça c'est bien, ça c'est mal, il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça. Celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Nul ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Et plus tu commences à rentrer dans cette dimension, même en église, hein. Des fois, une fois, j'ai un ami qui me dit, mais je ne sais pas, moi j'ai commencé à demander à Dieu, voilà, on veut t'écouter, on ne veut rien faire maintenant sans que tu nous dises quelque chose. Et puis la seule chose qu'il a, alors qu'il avait déjà préparé son message, que l'équipe de louanges était là, il reçoit le mot champagne. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, champagne? Et puis, ils n'avaient rien comme mot de parole, donc finalement, il a dit à l'équipe, écoutez, on a le mot champagne, on va acheter du champagne, peut-être que Dieu veut qu'on achète du champagne. Donc, ils sont allés acheter du champagne, du champomier pour ceux qui ne buvaient pas d'alcool, voilà. Et puis, ils n'avaient rien de plus que ça, ils ont dit, écoutez, aujourd'hui, la seule parole qu'on a reçue, c'est champagne. Et puis, quand ils ont commencé à déboucher les bouteilles de champagne, de champomier, à servir des coupes ou quoi. Ils étaient là, ils ne savaient pas toujours où ils allaient. Et la parole prophétique est tombée, qu'ils étaient en train de trinquer à la victoire de Dieu contre l'œuvre de l'ennemi sur l'assemblée. La gloire de Dieu est tombée et les gens commençaient à être visités, guéris, délivrés de cette manière-là. Ils n'ont pas fait le culte selon la pensée de ça c'est bien, ça c'est mal, il faut pas. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas de cadre, 90% du temps le cadre est bon, mais il est important que le Dieu qui est maître du Shabbat, donc qui est maître de cette loi, qui est maître au-dessus du cadre, puisse dire là, ça peut être comme ça. Là, ça peut être comme ci. Là, je veux que tu fasses ça. Vous comprenez? Mais dans vos vies en général, pas que dans l'église. Peut-être pour témoigner, toi, tu te dirais, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Et le Seigneur, il peut te dire non. Moi, avant d'être à plein temps maintenant dans le ministère depuis 8 ans, dans mon boulot, j'ai amené 3 collègues de boulot et moi je voulais toujours étaler la confiture aux gens. Je me suis dit, il est bon d'étaler la confiture. Donc je disais à tout le monde, je suis chrétien, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Et puis j'avais des portes qui se fermaient en fonctionnant comme ça. C'était encore moi qui passais. C'était moi qui jugeais ce qui était bien ou ce qui était mal de faire, vous comprenez? Et puis il y en a un, à un moment, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il me dit, tu lui dis rien du tout. Bon, alors je m'assois avec lui à la pause déjeuner, machin et tout, je bossais en mairie, et puis je lui dis rien, on parle de sport, on parle de politique, on parle de ci, de ça. Et puis au bout de 6 mois, ce gars-là, il m'aime bien, parce qu'il voit que j'ai des réflexions intéressantes sur la vie, sur la société, alors que je n'ai toujours rien dit, il m'invite chez lui, il me présente sa femme et tout ça. Et il me trouve de bon, ouais, d'une bonne moralité. Et puis je lui explique que finalement, mais je suis chrétien, engagé dans la foi, ici et ça. Il me dit, mais je savais pas, mais tu m'aurais dit ça au tout début, mais je t'aurais même pas calculé, parce que pour moi, c'est une secte, tous ces trucs-là. Vous comprenez? Le fonctionnement de la loi va t'amener des fruits aussi. 10%. Mais le fonctionnement dans la grâce de Dieu va pas louper la cible. Mais si tu ne te positionnes pas à essayer d'écouter Dieu, je peux te dire qu'il y a des œuvres prévues d'avance pour ta vie, la Bible le dit, pour que tu les pratiques. Et donc, si tu es toujours en train de faire ce que ta chair, elle décide, tu peux te trouver un adversaire en Satan face à Jésus, vous comprenez? Et Jésus, même avec ta bonne humanité, même avec ta bonne envie de faire, il peut te dire, arrière de moi, Satan, parce que là, t'es passé devant, c'est toi qui conduis la danse. Et Jésus faisait ce que le Père lui montrait de faire. Est-ce qu'il n'est pas venu casser les codes religieux? Il est venu confronter, mais la chair, elle est religieuse par nature. La chair, elle a besoin de traditions auxquelles s'accrocher. La chair ne fonctionne pas dans l'esprit et dans l'insécurité. Elle a besoin de tous ses repères de confort pour aller. Mais la marche en esprit, c'est une marche où tu sors de la barque. Et il va t'éduquer à de plus en plus sortir de tes sécurités, si tu l'écoutes. Moi, aujourd'hui, il me fait faire des choses folles. Vous savez, même dans le mouvement de Dieu, un des mots en hébreu de danser, il y a mahol et il y a aussi le mot shoul. Et le mot shoul, il veut dire enfanter, mettre bas, crier, tourner d'une manière circulaire. Mais moi, je ne savais pas tout ça. Et quand j'ai dit oui au Saint-Esprit, passe comme tu veux. À un moment, dans une conférence, il me fait simplement crier comme ça. Tout le monde me regarde et là, moi, je suis là. Oh! Et les gens me regardent comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il a un petit pet au casque ou quoi? Eh ben. Sur cette parole, ce son qui a été libéré, des gens ont été guéris. Une dame a témoigné le lendemain que des finances avec une enveloppe et des billets étaient apparus chez elle, porte fermée. Une autre, sur son compte bancaire, des sous sont apparus. Et si c'est ce que Dieu veut faire et qu'il te dit de dire rouge, et que toi tu dis non, ce sera noir. Vous comprenez? Donc tu ne peux pas mettre le mouvement du Saint-Esprit en cage. Et quand il te dit toi, suis-moi. Il va t'amener petit à petit à sortir de la maison de ton père, à sortir du rivage, et puis petit à petit, tes sécurités diminuent. Après, tu te retrouves dans la barque. Et puis après la barque, il te dit, allez, tu me suis, on va aller plus loin encore ensemble. Et il te dit, marche sur l'eau. Amen, amen. Mais en tout cas, déjà aujourd'hui, ce qui va vous activer, plus qu'une bénédiction extérieure, c'est que vous compreniez qu'il est important de marcher par le Saint-Esprit. C'est ça qui va vous faire croître, c'est ça qui va vous faire grandir et vous serez plus forcément dépendant de quelque chose d'extérieur parce que vous commencerez à fonctionner dans la grâce de Dieu et les choses vont commencer à se multiplier comme ça. J'ai vu des personnes, des fois, pendant 40 ans, aller essayer de chercher des bénédictions extérieures alors que le programme de Dieu pour ta vie, il est aussi là, vous comprenez? Il est là en individuel, il est là en église, en corporatif pour impacter la société. Mais le Seigneur, il t'appelle à marcher comme ça. Tu ne peux pas grandir dans la grâce si tu ne fonctionnes pas dans la grâce. Ça va? Et est-ce que tu as une ferme assurance aussi que par les meurtrissures de Jésus, tu as déjà été guéri, délivré? Est-ce que tu as une ferme assurance que Dieu, il n'est pas j'étais, il n'est pas je serai, il est je suis. Des fois, on prie pour des personnes et ils placent leur foi dans l'espace et le temps en disant oui, je reçois, que Dieu le fera plus tard, amen, j'ai reçu ta prière. Écoute, moi je prie pour maintenant, toi tu pries pour que ce soit dans un espace-temps indéterminé. Et là où deux tombent d'accord, il se passe quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il est important que ta foi, elle soit accordée sur ce que Dieu est en train de faire. Amen.